deuxième vieille émission. Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, je suis en compagnie de Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme et d'autres choses, de tant d'autres choses que nous n'avons pas le temps de les citer.
Reste modeste, bonjour.
De Mathieu Touvenin, étudiant en communication et information, qui a fait de l'économie, de la sociologie, ils savent tout faire maintenant les jeunes, qui est stagiaire à Esprit Occitanie. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Par téléphone, Pierre Larouille, qui est, je crois, au bord de la mer, à Marseille, non Pierre ?
Absolument.
Ah, hein, pris par ses occupations professionnelles. Et puis, on va avoir une chaleureuse pensée pour notre amie Léonore, qui a été durement touchée par la maladie à la mode, par le Covid. Je pense qu'elle a été vraiment, vraiment très secouée. Mais ça va mieux. Elle sera prochainement avec nous dans ce studio. Donc,
ça va mieux. Ça va mieux.
Ça va mieux. On l'embrasse et on pense à elle. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, ça ne vous étonnera pas et on y reviendra certainement quelquefois. Bien évidemment, des élections à la présidence de la République française. On va parler de cette situation inquiétante en Ukraine et puis on parlera aussi d'autres choses d'inquiétant, c'est-à-dire les États-Unis qui sont dans une situation intérieure un peu chaotique et on peut craindre que ce pays qui a en grande partie inventé la démocratie ne s'éloigne beaucoup d'elle. Voilà, c'est ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Tiens, une situation pour commencer, j'en fais mon début, mais j'en finirai aussi tout à l'heure ma première introduction. Si tu as un jardin non loin d'une bibliothèque, tu ne manques de rien. C'est Cicéron qui écrivait ça à son ami Varron. Je pense que c'est peut-être une sagesse que nous allons devoir bientôt mettre en œuvre.
Quand on voit les médias, effectivement,
voilà,
on a tendance à se réfugier dans les livres.
Voilà. Alors, campagne électorale, eh bien, je vais vous livrer un scoop. Hein, voilà, je suis devenu devin. Macron sera candidat à sa réélection et il sera élu. Voilà, c'est dit, fermez le banc circulé, il n'y a plus rien à voir, on peut passer à notre point, c'est à peu près ça, parce que tout le reste n'est qu'agitation stérile et la plupart du temps médiocre de la part d'une foultitude de candidats qui permettent à ces chaînes d'information continues de faire leur beurre ad nauseam quand elles ne prennent pas directement part à la campagne en soutenant sans vergogne certains candidats qui ont chez elles micro ouvert, suivez mon regard, adieu notre belle démocratie dont les médias sont entre les mains de financiers engagés sournoisement en politique. Alors, curieuse campagne où les thèmes développés par les prétendants sont bien éloignés de la préoccupation de beaucoup de Français. Thèmes, il faut bien le reconnaître, souvent fantasmés, voire inventés ou surjoués, tels la sécurité et l'immigration par exemple. Quand on n'a rien d'autre à dire, il faut bien agiter les menaces et les peurs pour allier les électeurs. Attitude peu glorieuse de petits politiciens manquant singulièrement d'envergure politique et intellectuelle. Une campagne où l'on parle surtout de candidats torturés par leurs égos, plutôt que de programmes, qu'ils soient communs ou pas. Nous baignons dans la superficialité, le coup médiatique, la communication basique, l'approximation racoleuse, les petits arrangements, les débauchages et les coups fourrés de bas étage, les disparités sociales, le pouvoir d'achat, l'éducation, les inquiétantes problématiques écologiques qui menacent notre avenir, l'éducation, la culture, sont largement survolées, voire ignorées au profit d'effets d'annonce aussi creux que de vagues. Eh bien, j'en reviens à ma citation liminaire, à ma citation liminaire à la sagesse de Cicéron. Si tu as un jardin non loin d'une bibliothèque, tu ne manques de rien. Je pense que peut-être un certain mois de marche, je ne manquerai de rien et je ne sortirai surtout pas de mon jardin. Ceci posé, Pierre, vous qui êtes à Marseille, c'est bien ça, hein, vous êtes à Marseille.
Oui, c'est une bonne situation pour regarder ce que vous venez de dire, Jacques.
Alors, quelle est votre approche, votre avis sur toutes ces questions ?
D'abord, par souci d'avoir un peu d'animation, parce que vous avez dit que sinon on finissait le débat avant de le commencer, je vais dire l'inverse, Jacques, de ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de parler d'une présidentielle qui n'a pas commencé. On ne connaît pas le scénario, on ne connaît pas le casting et on ne connaît pas le contexte.
Donc, enfin, c'est, le contexte, vous avez raison. Le contexte, on le connaît quand même un peu.
Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Quand on aborde les questions que vous abordez sur les programmes, faisons des choses concrètes. La France aujourd'hui se pose la question du climat, se pose la question du nucléaire, et en même temps est en train de découvrir le problème de l'énergie et d'un problème mineur qui est comment on finance les 100 milliards sur le nucléaire qui permettent un peu de souveraineté sur l'énergie pour la France, ou alors de basculer dans un autre système.
On peut se dire aussi comment on va financer les 140 milliards que nous ont coûté le Covid, hein ? C'est une question.
Ceux-là, on va les payer.
Ah oui, enfin, les jeunes, surtout, on va les payer.
C'est un petit peu différent. Non, Jacques. On nous a laissé dépenser des milliards pour le Covid que nous allons être amenés à rembourser.
Quoi qu'il en coûte.
Le jour où nous allons être obligés d'investir dans des EPR, ça sera un peu plus d'argent cash. Et cet argent-là, il va falloir le trouver quelque part. Ça va être un sujet de la présidentielle. Ça sera un débat gaullien sur la souveraineté et sur l'opposition, sur les nouveaux modèles que éventuellement veulent les Français. Et ce sujet n'est pas posé. Il pourra être crucial dans la présidentielle et peut-être décidé pour de longues années pour ce pays.
Alors quel est votre pronostic face à tout ça? On voit une gauche qui est complètement morcelée, divisée, laminée, un parti socialiste qui n'existe plus, enfin c'est une réserve d'Indiens aujourd'hui. Nous avons Madame Taubira qui rentre dans le jeu, nous avons Monsieur Jadot qui sent que pour lui, il ne faut pas louper le coche s'il veut exister. Monsieur Mélenchon qui fait des meetings olfactifs, donc tout ça est quand même assez surprenant. Madame Pécresse qui a le programme de Fillon et qui est en réalité une de Macron en jupon, c'est pas très excitant tout ça.
Oui, mais encore une fois, je crois que tout ça n'est pas écrit. Je crois qu'il y a aujourd'hui une opération commando qui est montée je ne sais pas par qui a organisé autour de Cluster 17 et de M. Mélenchon, de l'autre côté avec une primaire donc, qui est quand même assez paradoxale pour faire élire Mme Taubira, pour à la fin peut-être réunir les deux et d'avoir un accès second tour assez paradoxal. Pourquoi pas ? Tout est possible, on peut faire croire n'importe quoi dans ce que j'appelle le woke de la démocratie qui est en train de se monter, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin des Russes pour tricher sur l'élection américaine, on est capable, nous, de le produire en interne. Et là-dessus, les médias comme les politiques, pour l'instant, se ratonnent. Je redis que je pense que les choses ne resteront pas en l'état et que, très probablement, dans les jours prochains, il se passera peut-être pas des choses très brusques, mais il se passera forcément une chose très brusque qui est que les vrais débats vont s'imposer et vont changer profondément la donne de la question que se posent les Français, et qu'ils constatent, si on se déplace un tout petit peu hors de Paris et hors des terres métropolitaines, qui, au travers, encore une fois, du pouvoir d'achat, de la pompe d'essence, de la vie demain, posent beaucoup de questions aux citoyens. Les Gilets jaunes sont encore là, et on le voit pas venir. On dit que Zemmour est en pleine chute. Moi, j'en sais rien, je pense qu'il est sous-estimé. Bref, il se passe plein de choses dans cette campagne qui ne sont, encore une fois, qui n'est pas encore commencé.
Il se passe beaucoup d'agitation, mais au niveau des idées, au niveau des débats d'un certain niveau, comme nous le méritons, il ne se passe pas grand-chose quand même. Jean-François Millard.
Oui, que nous le méritons. Quand on dit que nous le méritons, c'est vrai, on pourrait dire ça, sauf que faut toujours se dire qu'on a des politiques qu'on mérite aussi.
Ah oui, ça c'est certain.
Autrement dit, ce qui nous arrive est aussi en partie ce que nous méritons et ce que nous avons nous-mêmes fabriqué. Voilà. Je suis toujours émerveillé de l'optimisme de Pierre Larouille que je salue. Je suis heureux de...
Bonjour Jean-François.
Voilà, parce que j'ai son indécrottable, j'ai envie de dire, optimisme concernant les vertus du système politique tel que nous le connaissons. Et ses supposées capacités à rebondir pour arriver à se hausser au niveau à la hauteur des enjeux. Je dois avouer que je suis beaucoup moins optimiste que lui. Je ne veux pas jouer les Cassandres et je ne veux pas non plus jouer le politique bashing. C'est Ce serait, même si vraiment aujourd'hui rien n'est fait pour l'éviter, ce serait certainement tombé dans la facilité. D'abord sur les prévisions, bon, alors je ne sais rien. Alors, par contre, ça, je le partage avec. Je suis moins catégorique que Jacques Lavergne, qui d'emblée nous a à l'entrée de sa magnifique introduction, nous a, que je salue aussi, nous a fermé la porte. Oui, c'est très possible, mais je ne suis pas sûr. Ce qu'il y a d'à peu près sûr, c'est que, je vais le dire de manière un peu abrupte, mais je l'avais déjà dit, pour le dire crûment, plus ça va vraiment, moins ça m'intéresse. Je pense partager l'avis d'un nombre croissant de personnes. J'en suis particulièrement attristé, hein, mais sauf avoir une fibre de supporter sportif ou de sportif, ce qu'est Pierre Larouille, un grand sportif de l'Éternel. C'est-à-dire à s'intéresser à des pronostics pour savoir qui va finir en demi-finale, en quart de finale, puis en demi-finale, puis en finale du top 14. Je ne sais plus combien ils sont. Ils sont peut-être 14, tiens. Mais ça serait intéressant de le compter. Ils seront peut-être 14, voilà. On racle, pour le dire trivialement aussi. Hein. C'est-à-dire que... Alors, non seulement on racle, c'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui, à l'occasion de cette campagne, des choses qu'on n'aurait certainement pas imaginé avoir à entendre. Il y a de ça pas si longtemps que ça. Ça passe crème, comme ils disent les jeunes. Hein. On entend des propos racistes, xénophobes... On entend des mensonges éhontés, on voit un président de la République qui n'est toujours pas en campagne, mais qui se comporte comme le pire des candidats. Mais je veux dire, tout ça est un jeu d'ombre, est une espèce de gigantesque pantalonnade qui est un peu crépusculaire quant à notre fonctionnement démocratique. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Alors, je vois qu'on n'est pas très loin de ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est vrai, sauf que...
On est désenchanté, on va dire, pour le moins.
Oui, je suis même un peu en colère, je dois avouer, mais en même temps, je suis en colère certainement contre moi-même et contre nous-mêmes, dans la mesure où on est effectivement dans l'incapacité aujourd'hui de produire des alternatives. Et j'ai envie de dire, alors c'est toujours facile comme ça, qu'on le voyait venir. Et c'est-à-dire, moi, autour de moi, quand en discutant, ça fait des semaines, voire des mois, qu'on se disait, tout ce machin-là est quand même mal parti. On ne voit vraiment pas comment on va en sortir. On a une petite idée maintenant de comment on va en sortir, c'est par le bas. Hein, c'est-à-dire, et par le bas, par le gras, par le très bas. Hein, au point même que la vraie question, moi, que je me pose aujourd'hui, c'est par quel bout va-t-on arriver à reprendre ce machin qui, une fois que la folie générale sera passée, c'est-à-dire, alors on est par ailleurs parti, et c'est extrêmement rituel, dans une période dans laquelle même les meilleurs amis deviennent les imbéciles. Hein. Parce qu'ils portent le drapeau de leur supposé groupe d'appartenance ou de leurs supporters et ils désignent à tout va tout ce qui n'est pas avec eux. J'ai quelques amis insoumis qui sont devenus particulièrement imbuvables. J'ai par ailleurs d'autres amis qui sont taubiresques et qui eux-mêmes commencent à engager, maintenant que la championne est partie, s'est découverte. Commence aussi à engager le parcours derrière l'oriflamme de la candidate. Je passe sur les néo-nazis reblanchis à la sauce Zemmour. Et la droite, tout à l'heure, quand Jacques Lavergne ne voyait pas de différence entre Macron et Pécresse, à regarder de près le programme de Pécresse, moi, je ne vois pas trop de différence entre le programme de Pécresse et celle de Marine Le Pen. Hein, et celui de Marine Le Pen, je viens de lire au passage, comme ça, d'un derrière distrait, comme disait Henri Janson, dans Le Canard Enchaîné, l'abstract du programme pour l'éducation nationale de Valérie Pécresse, c'est du Marine Le Pen, et celui de Zemmour, c'est du Pétain. Donc on est vraiment au fond du trou, et ça va durer, hélas, quelques semaines. sans que moi personnellement, je ne vois pas l'ombre, le soupçon d'une idée de par quel bout on va pouvoir rattraper, allez, je vais dire un gros mot, ce magnifique merdier que nous avons devant nous. Ce qui est très très grave, parce qu'effectivement, c'est quand même de notre démocratie dont il s'agit.
Ce qui est grave, c'est qu'on ne parle, comme je l'ai dit dans mon introduction, donc excusez-moi de me citer, mais on ne parle pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes... Les vraies questions, c'est le pouvoir d'achat, c'est les inégalités sociales, c'est l'éducation, et puis il y a toute la problématique environnementale au sens très large, l'énergie, quelle sera notre énergie demain, voilà, et puis on a...
Et je crains, malgré tout l'optimisme de Pierre, que nous n'en parlions pas, ou que nous n'en parlerons pas, et que les quelques situations dans lesquelles nous serons amenés à en parler ou à en entendre parler, les gens qui en entendront parler n'auront strictement aucune confiance sur ce qu'il pourra dire à cette occasion-là, tel le discrédit est généralisé.
Alors Pierre, vous qui êtes au cœur de ces choses-là, est-ce que vous voyez une éclaircie future? Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, des programmes ou un candidat émerger par rapport aux autres? Quand je dis un candidat émergé, je ne parle pas de Mme Taubira, hein, vous avez compris.
Non, mais je vous écoute avec attention, et en fait vous symbolisez très exactement le problème que nous avons tous, qui est un problème de désespérance. Et d'un manque à quelque chose. La seule chose qui peut se produire, je le redis, prenons les choses dans l'ordre, je considère qu'à cette heure-ci, nous n'avons pas le scénario et le casting de la campagne. Posons des problèmes très concrets. Jacques Laverne, vous êtes très concerné par les problèmes de l'énergie, de l'écologie. Vous êtes forcément très sceptique sur le nucléaire. Vous savez très bien.
Ah, je ne suis pas sceptique sur le nucléaire.
Non, mais je ne prends pas position. Nous sommes confrontés là à une situation très concrète. C'est dans les deux mois. Est-ce que on va poser sur la table la question du financement de deux choses? Le pouvoir d'achat des Français par rapport à l'énergie, des individus et des entreprises. Et de l'autre côté, le problème de l'écologie. Si nous posons ces deux questions, nous sommes dans un chemin critique qui fait que soit nous avons une attitude gaullienne, qui va être celle du président Macron, et qui va être de décider un référendum sur une décision d'un énorme investissement national et patriotique sur la souveraineté énergétique de la France, qui doit s'acheter au prix de l'épargne des Français. Si on ne fait pas ça, il n'y a pas de possibilité, EDF est surendetté, personne ne pourra le faire. On peut choisir une option contraire qui est de dire la France rentre dans une période où on renonce au nucléaire, nous avons une vision totalement, et on peut le comprendre, écologique. On constate au travers du score de M. Jadot ou d'autres que ce discours et d'ailleurs cette réalité à court terme et sur 20 ans n'existe pas. Donc nous sommes sur un sujet central, j'ai envie de dire à la social-démocratie, que si elle a quelque chose à inventer aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, c'est de trouver le chemin critique là, entre. Parce que c'est bien joli de dire qu'on réconcilie le social et l'écologie, ça c'est du baratin. Derrière, c'est sur ce sujet concret, dans deux mois, on est président ou on est présidente, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Comment on assure le pouvoir d'achat des Français, la vie quotidienne des Français, notamment dans le rural, et comment on assure la sortie ou pas du nucléaire. Si on ne répond pas à cette question, on enfume, on fait de la métaphysique comme Mme Taubira. Donc je ne crois pas, comme les sujets ne sont pas posés, je crois qu'ils vont être posés. Et c'est pour ça que je vous dis, le scénario n'est pas écrit, le film n'est pas constitué. Et nous verrons dans les prochains jours si oui ou non, il ne s'agit pas de dire qu'un tel, que l'autre, qu'il y a un mec miraculeux qui va arriver ou une femme miraculeuse. Il s'agit de dire, est-ce que quelqu'un va électrocuter le débat politique de cette présidentielle en posant les questions? Je vois que les Français, au travers du sondage de la CEVIPOF, disent, nous voulons de l'autorité. J'ai envie de leur répondre, vous avez raison, la première autorité, c'est de dire la vérité.
Alors faisons un peu de science-fiction, vous avez dit, est-ce que politique quelqu'un, politique-fiction, comme dit Pierre, Jean-François plutôt, Est-ce que quelqu'un va se lever, effectivement, pour essayer d'élever un peu ce débat et de faire que de bonnes questions se posent ? Est-ce que c'est encore possible dans le temps qui est le nôtre et qui cela pourrait-il être ?
En tout cas, avant le 15 février, il faudra que des voix s'élèvent pour poser cette question. Sinon, ce pays court à de graves difficultés. Et je crois, là je suis d'accord avec vous, que si on continue d'enfumer les gens, non seulement l'abstention sera majeure, mais les biais, et aujourd'hui tout ce qu'on construit, il faut se méfier. Moi je veux savoir comment les sondages sont corrigés, je veux savoir quelles seront les alliances de dernier moment, je veux savoir quel sera le casting définitif, et on n'est à l'abri de rien, y compris de la non-réélection du président Macron, qui malgré tout, je le reconnais, aujourd'hui semble tenir la rampe. Tout est toujours possible. Je pense que d'ici le 15 février, il y aura forcément des prises de parole, pas forcément une, mais multiples, qui vont à un moment donné quand même poser cette question, parce que je pense qu'on est dos au mur dans cette, pour ce pays, dans cette campagne.
Est-ce que le président Macron sera, bon, je le pronostique réélu, je peux me tromper, il sera peut-être réélu parce qu'il n'a pas d'opposition crédible, ou on peut le dire autrement, au pays des aveugles, les borgnes sont rois.
Mais s'il est réélu, le problème qu'il aura, c'est qu'il sera réélu par une toute petite majorité de votants, par une toute majorité d'électeurs positifs, et que ce pays sera ingouvernable dès la prochaine législative. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, moi je ne suis pas convaincu que la loi habituelle que l'on a voulu décrire comme quasi institutionnalisée, c'est qu'on donne toujours la majorité à celui qui est élu, ben, j'en n'en suis pas persuadé. Et selon les scores, soyons concrets, si le président Macron est élu, son parti est très très faible dans les territoires. Donc les deux seuls partis qui, malgré tout, quelles que soient les circonstances, sont demeurés des partis forts sur le terrain, sont les Républicains et, d'une certaine manière, le Parti Socialiste. Donc, si jamais il y a un discrédit total de ces deux partis, si les socialistes continuent à être dans les pourcentages où ils sont, si Valérie Pécresse n'arrive pas à s'implanter, alors la recomposition est totalement, aujourd'hui, très inconnue. En revanche, si ces deux partis, l'un ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, relancent une dynamique, alors il n'est même pas impossible qu'une cohabitation existe dès le premier mois après cette présidentielle.
Jean-François.
Oui, juste, je diffère bien entendu en partie de ce que dit Pierre. D'abord sur le fait que Macron soit élu par une petite minorité de gens, ce qui serait une nouveauté. Bis repetita, nous avons l'élection précédente de Macron était l'élection d'un président qui s'est fait par défaut sur une toute petite minorité, sur un parti qui est un parti qui a été organisé à partir de transfuges arrivistes du Parti Socialiste.
Et sur un pourcentage d'électeurs forts, Jean-François.
Pardon ?
Sur un pourcentage d'électeurs relativement
oui,
fort.
Oui, alors ce qu'on va voir arriver, c'est par contre certainement la vague qui est la vague d'abstention, ce qui change en partie de la donne, pas du jeu électoral, mais du jeu politique pour le coup. Et deuxième élément, quand vous dites qu'il y a deux forces politiques qui sont des forces politiques présentes dans les territoires, qui sont les Républicains et le Parti Socialiste, ou du moins ce qu'il en reste, en tant qu'élu. Mais est-ce qu'une force politique se limite aux élus qui la composent ? Je veux dire, le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est beaucoup de... C'est quelques militants, dont certains des enchantés qui restent, et quelques élus qui sont là, parce que par ailleurs, c'est aussi, ça correspond à leur parcours, qui est leur parcours professionnel.
Oui, Jean-François, pardon de vous couper. Pardon, on se tutoie. Tu as raison. Simplement, je note, c'est simplement pour faire un tout petit historique, qu'on a déjà dit ça, mais pour les municipales, les régionales, etc., oui. On a, et les départementales, on a quand même vu que ces partis existaient en dehors effectivement des partis qui n'existent plus, mais qui représentent au bout d'un moment localement des forces qu'on ne peut pas totalement négliger.
Ce n'est pas des partis, c'est des élus qui existent. C'est une présence qui est une présence d'élus. Et tout ça tient quand même la route dans la mesure où La politique de proximité a encore un minimum un sens, alors que la politique nationale commence à en avoir de moins en moins. Mais je crains bien que ça ne dure pas comme les impositions, comme disait ma grand-mère, cette affaire-là. C'est-à-dire que la crise aussi touche aussi la question qui est la question des territoires. Hein, d'autant qu'on sait, ça pour le coup, on partage, je pense, cet avis, hein, que la question de la présence des territoires est quand même un gros, gros problème de notre fonctionnement national.
Oui, ça d'accord, non, mais j'essaie simplement d'ouvrir ce sujet et de ne pas vous laisser à votre pessimisme tous les deux. Et je vous dis simplement,
à notre désespérance.
Moi, je vous dis rien de positif. Je vous dis que le jeu est ouvert parce que le scénario et le casting ne sont pas écrits. Je crois qu'on a des vrais sujets. Je pense que les Français commencent à les constater dans leur caddie comme dans le réservoir de leur voiture et comme ailleurs. Et que donc, à un moment donné, peut-être quand même qu'il va se poser des questions et qu'il va falloir que les gens se prononcent et que ça va peut-être créer des clivages, mais pour aller dans le sens de Jean-François, moi je considère aussi, mais je vois pas comment ça va se traduire sur le terrain, que moi je crois qu'il y aura, qu'encore une fois il y a une opération qui est très bien montée et que in fine Mme Taubira et Jean-Luc Mélenchon ont préparé le terrain d'une alliance. On regardera à fond, quand on regarde le programme de la primaire, ce qu'il représente et les quelques inquiétudes, mais en même temps quelques espoirs. Je reconnais que Jean-Luc Mélenchon a au moins le mérite de constituer un programme, de réfléchir, d'innover. Après, il pose quand même un certain nombre d'autres problèmes, et ça, chacun devra se prononcer par rapport à ça.
Est-ce que l'ego de M. Mélenchon, qui n'est là que pour flinguer le Parti Socialiste et exister, ne va pas lui interdire de refaire le score qu'il avait fait la dernière fois, qu'il a lui-même surpris d'ailleurs?
Je vous propose deux rendez-vous, dimanche à 17h, sur le résultat de la primaire, dont tout le monde dit qu'on sait déjà les résultats, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs, parce qu'on s'inquiétera sur la manière de s'est organisé. Essayons de dire que si Mme Taubira fait un parcours sans faute, on suspectera beaucoup quand même que ça soit construit pour elle. Si par hasard il y avait un touche-touche entre Mme Taubira et Jean-Luc Mélenchon, alors on pourrait penser qu'il y a déjà un début d'une alliance, mais qui aurait été programmée.
Est-ce que c'est quelque chose de crédible pour vous, Jean-François?
J'en sais rien. Là-dessus, je suis absolument incompétent. Comme disait encore une fois ma grand-mère, Bérenbé, on verra bien. Mais ça va ressembler quand même à de la carpe et du lapin, comme dit l'autre.
Le programme commun, ils ont mis quand même énormément de temps avant de le construire, avant de le négocier. Et à l'époque, on se battait sur un programme, c'est-à-dire qu'on avait le menu.
Dans un contexte de politique ou de conception du politique très différent de celui qu'on vit effectivement à l'heure actuelle. Moi, j'ai été assez sidéré que la primaire de gauche, hein, pour le dire comme ça, parce que c'est nettement plus clair, se déroule dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, avec une Christiane Taubira qui s'est surpris. Peut-être que tout ça est le produit de manœuvres, d'appareils, qui pour le coup, alors là, cela m'intéresse encore moins, mais qu'elle se soit... Voilà, ça commence à ressembler. Enfin, moi, ce que j'entends autour de moi aussi, de gens qui étaient plutôt favorable ou intéressé par ce genre de choses-là, c'est pas assez trop tard. Voilà.
Jean-François, on verra tout ça. J'avais dit qu'il y avait deux dates. Et vous avez raison. Dimanche, on va regarder ce qui se passe. Il y aura une deuxième date, je l'ai dit, jusqu'au 15. C'est est-ce que d'autres voix s'élèveront pour éclairer différemment le débat? Et en fonction de ça, on va voir effectivement quel est le film qui est devant nous. Je pense qu'il faut quand même sortir d'un défaitisme total. Je pense que la situation est complexe. Je pense qu'effectivement, nous allons vers des solutions qui ne sont pas tout à fait drôles. Et de toute façon, la situation ne sera pas drôle, parce que quand on va dire la vérité sur le quoi qu'il en coûte et sur les questions que nous avons, notamment, j'y reviens, sur la question de l'énergie, je pense que les Français doivent se rendre compte qu'ils feraient mieux d'aller voter, parce que la situation de ce pays va être très très compliquée pour beaucoup de gens dans les 20 ans à venir.
Allez voter, certes, mais encore faut-il trouver quelqu'un pour voter. Alors vous nous parlez beaucoup de voix qui vont s'élever, donc vous entendez déjà peut-être ces voix telles une certaine Jeanne d'Arc, mais on sait comment elle a fini.
Quelle origine nous l'aurait cachée.
Quelle voix vous pensez qui peut s'élever ? Elles s'élèveront nécessairement à gauche. Madame Hidalgo est en train de sombrer corps et biens dans une campagne qui malheureusement est un échec, tout le monde peut le constater. Alors est-ce que d'autres voix à gauche aujourd'hui peuvent s'élever, et si oui, lesquelles ?
Écoutez, moi, vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire, mais je crois et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent bien le dessous des cartes, de ce qui se passe avec M. Poutine, de ce qui se passe sur l'énergie, de ce qui se passe réellement dans ce pays, les enjeux. Je ne dis pas que ces gens-là vont amener une solution, être des candidats et tout ça. Je dis simplement que peut-être que la tonalité de ces voix sera importante et que je pense que si c'est entendu, c'est susceptible de remobiliser, pas forcément... tout le monde, tout de suite, les électeurs, c'est susceptible de remobiliser l'envie d'en débattre. Et que donc la campagne peut changer simplement, de soit plus optimiste, au sens d'où nous avons quand même envie de discuter, d'essayer. Et je pense qu'il existe des voix, on a entendu Bernard Cazeneuve il y a quelques temps, qu'on n'écoute pas assez s'exprimer. Je pense que François Hollande va s'exprimer très prochainement, il l'a dit. Ce sont des voix de gauche, on peut critiquer, mais ils ont été au pouvoir, ils ont géré, ils savent ce que c'est, ils savent les dessous.
C'est peut-être leur problème.
Ils peuvent amener leur expérience.
C'est peut-être leur problème, parce qu'ils y ont été, mais quand on a été, est-ce qu'on a encore un avenir ? C'est autre chose. Enfin, écoutez, on va changer de suite les piles des sonotones pour mieux entendre ces voix.
Hein, à nos âges, il faut changer régulièrement.
Voilà, mais on va quand même demander, nous avons notre stagiaire Mathieu Touvenin. Alors Mathieu, vous avez écouté très très doctement et très sagement. Ouais, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant, c'est votre avenir qui se joue, parce que
nous
on n'est pas à la maison de retraite, mais voilà, il est derrière nous. Alors la maison de retraite, non, depuis qu'on a lu un certain livre, on n'a plus envie d'y aller en maison de retraite, on n'avait pas envie avant non plus. Comment vous réagissez face à cette situation, Mathieu ?
Eh bien, malheureusement, un peu comme vous, du haut de mes 20 ans, j'ai un regard, on va dire, assez critique. Enfin, j'essaie. Et je vois, comme vous dites, plein de candidats qui ont des propositions floues ou un peu détachées de la réalité qui nous pose de réels problèmes et s'enfoncent dans des débats flous. Et c'est très intéressant aussi ce que disait M. Pierre à propos de Zemmour, qui est très sous-estimé en ce moment, je trouve.
On ne sait pas s'il a d'ailleurs les 500 signatures ou s'il ne les aura jamais, parce qu'on est en train de parler d'un candidat virtuel qui n'accédera jamais au départ de la compétition.
Mais ouais, il a beaucoup de... C'est pas sûr du tout, ça.
Oui. C'est pas sûr dans quel sens ?
Bah, je pense que tout dépendra de qui joue à quoi et si des groupes quelconques, vous savez très bien que cela envie.
Disons de suite que si les républicains,
c'est des bières à trois bandes.
Disons que si les républicains font signer leurs élus de manière à mettre Zemmour face à Madame Le Pen pour la casser et permettre à Madame Pécresse de passer en deuxième position, c'est ça.
C'est une hypothèse, vous pouvez en avoir d'autres.
Tous les coups tordus sont possibles, oui. Je pense qu'on est dans un tel niveau, là, pour le coup, de magouille, on va dire, même si j'utilise le mot, que tout est possible. Je pense.
Mathieu, ça vous intéresse, la politique, à votre âge ?
Ça m'a beaucoup intéressé, mais j'ai aussi très vite compris qu'on était dans de la communication pure et simple. Du coup, j'ai très vite aussi désacralisé le métier de politicien. Et du coup, aujourd'hui, je ne crois plus vraiment aux politiques. Et je me place comme abstentionniste, on va dire, pour l'instant.
Vous avez posé la question de savoir si vous iriez voter, mais bon, vous nous avez répondu.
Et bien, j'attends comme vous le pro-chevalier.
Eh bien, nous allons entendre les preux chevaliers, nous allons entendre les voix, puisque Pierre Larouille, qui connaît son monde politique, nous a promis des voix.
On fait dans le médiéval, décidément.
Oui, oui. Bon, merci Pierre.
Toujours une voix, et donc ma voix vous quitte, et je me rends à Marseille avec deux choses, s'il vous plaît, puisque je finis le contact avec vous. D'abord, Marseille est sublime, et je vais retrouver Johan Le Guerne, dont vous savez l'amour que j'ai pour son travail. C'est un artiste absolument fabuleux, et je suis ravi d'aller le retrouver. La deuxième chose, c'est qu'il faut des bouquins fondamentaux en dehors des voix. Je vous suggère dès demain d'aller regarder le débat sur la dysphorie du genre entre Charlemagne et Jean-Pierre Lebrun. On sera d'accord ou pas, ça va ulcérer les gens ou au contraire les intéresser. C'est un livre fondamental dans la période actuelle.
Rappelez donc le titre.
La dysphorie du genre.
La dysphorie du genre, donc nous irons
GRS.
Voir. Dites-nous ce que c'est que la dysphorie, va, ça nous évitera d'aller le chercher sur le dictionnaire.
Écoutez, c'est très exactement ce sentiment qui peut aller de l'étouffement à la dispersion.
Bon, écoutez, nous allons d'un côté voir, étudier cette fameuse dysphorie du genre, écouter les voix et rester attentif à tout ce qui se passe. Merci
Pierre. Et guetter les preux chevaliers.
Voilà, merci Pierre d'être intervenu de loin. Bon séjour à Marseille et à très bientôt.
Salut à vous, à bientôt.
Au revoir. Bien, nous allons passer à autre chose. On ne va pas rester franco-français. On va regarder un peu à l'est et à l'ouest pour terminer notre émission. Alors, on va commencer par l'est et la situation ukrainienne, qui est un peu difficile à appréhender aujourd'hui. On a compris que c'était un peu la guerre des nerfs, qui est alimentée par la pression militaire des troupes russes massées depuis au moins 3 mois sur la frontière orientale de l'Ukraine, mais alimenté également par une tension russo-américaine, et puis il y a au milieu de ça les déclarations occidentales qui jusque-là étaient contradictoires. Il semblerait qu'aujourd'hui l'Europe se soit un peu ressaisie, se soit unie pour parler d'une seule voix et pour se rapprocher de la position américaine, c'est ce qu'il semble. Bon, je pense que les Ukrainiens, mais Jean-François là, qui a eu des contacts avec notre correspondante russe, va nous en parler plus savamment, les chrétiens ont bien compris une chose, c'est qu'il y a quand même une confrontation entre les États-Unis et leurs alliés d'un côté, la Russie de l'autre, et ça dépasse largement leur propre sort, même s'ils sont les premiers concernés. Il ne faudrait quand même pas les oublier. Alors le Monde a travaillé avec, sur la base d'entretien d'une douzaine de responsables et d'élus. Ça a été organisé à Kiev par le centre German Marshall Fund of the United States, n'est-ce pas, hein, voyez.
Wow.
On peut le dire. Et donc ils ont étudié, puis ils ont dit non, le scénario d'une invasion russe à grande échelle apparaît dans l'immédiat comme le moins plausible. Croisons les doigts pour qu'ils aient raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens se tiennent prêts. Un tiers d'ailleurs disent être volontaire pour prendre les armes et résister à une intervention russe. Et je pense qu'ils le feront. Et c'est vrai que le coût humain d'une telle offensive serait quand même relativement élevé pour Moscou. Les Ukrainiens se défendront bec et ongles. Par contre, la Russie peut, par exemple, intensifier ses opérations de déstabilisation, de désinformation, ils savent très bien le faire, par leur fameuse cyberattaque. On a vu ça pendant les élections américaines.
Ah, ils ont fait ça ces derniers jours. Mais...
Oui, et voilà, la pression militaire s'accentue quand même sur les frontières de l'Ukraine. On l'a vu, on amène toujours plus de chars. Bon,
et de la Bélarusse, de l'autre côté de l'Ukraine, il y a 5 000 soldats. Hein.
Oui, donc ça fait quand même beaucoup. Alors certains diplomates européens disent... on est parti pour un marathon, pas pour un sprint, soyez patients. Bon, peut-être. Il se peut aussi qu'une autre hypothèse soit plausible, c'est-à-dire une opération localisée dans l'est de l'Ukraine. Hein. Si la Russie choisit l'escalade, elle le fera dans des territoires voilà, où historiquement les gens ont des liens familiaux avec la Russie pour être un peu mieux accueillis. Donc, notamment la ville de Kharkiv, qui pourrait être occupée sous prétexte de protéger la population russophone, c'est toujours ce qu'on dit. Bon. Est-ce que ça arrivera, est-ce que ça n'arrivera pas? Il ne faut quand même pas oublier. Bon, l'UE a proposé, je crois, et a fourni 1,2 milliard d'aide à l'Ukraine pour aider Kiev, comme l'on dit, à faire face dès maintenant à ses besoins de financement du haut conflit avec la Russie. Les États-Unis ont envoyé des armes. Il ne faut pas oublier quand même que la Russie nous fournit notre gaz, notamment à l'Allemagne.
Exactement.
Quand même. Hein. L'Allemagne est dépendante d'entre 50-75% de la Russie pour ses approvisionnements en gaz et à peu près 40% pour le reste de l'UE. nous attendons la mise en service de Nord Stream 2, ce fameux gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique, dont la construction est achevée, mais qui n'est pas encore certifiée. Donc, en dehors de cette agitation militaire, en dehors des discussions dont on ne voit pas très bien l'avenir entre les uns et les autres, nous sommes dépendants de la Russie et M. Poutine le sait bien, M. Poutine qui essaye de restaurer le grand empire russe tel qu'il était et qui a surtout très peur que l'OTAN s'en mêle, ce qui viendrait, si l'Ukraine adhérait à l'OTAN, ce qui mettrait une grossière épine dans sa chaussure et puis surtout il n'aime pas les démocraties. Nous sommes encore un peu en démocratie, et ça lui déplaît souverainement. Jean-François ?
Oui, alors d'autant qu'il faut quand même signaler que ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, même de la part de l'Ukraine. L'Ukraine a parfaitement compris, je pense, que la place stratégique qu'elle joue, c'est-à-dire le fait qu'elle est géopolitique, elle est à la croisée, effectivement, à l'articulation de deux blocs, et que ce qui se passe à l'occasion de l'Ukraine n'est qu'un épiphénomène de la stratégie poutinienne qui s'est développée au Kazakhstan dernièrement. Autrement dit, en ce moment, Poutine joue des coups gagnants au niveau international, c'est-à-dire que et il a une stratégie qui est une stratégie bien connue, qui est celle du retenez-moi, je vais faire malheur. Il a bien mesuré aussi que l'Occident, comme on dit, est quelque chose qui a du mal à avoir une position qui est une position homogène. Alors on voit apparaître là maintenant petit à petit sous la pression cette opposition-là, mais c'est quand même pas complètement gagné, ne serait-ce effectivement que parce que, par exemple, la carte du gaz, c'est une carte qui est une carte qui fragmente le front qui serait le front occidental. Je voudrais dire par ailleurs, c'est que ce qu'on paie, me semble-t-il, ça, moi j'avais déjà attiré l'attention là-dessus, c'est des années qui sont des années de dédain, voire de position surplombante par rapport à la Russie. Encore une fois, quand on va dans la rue à Moscou, pour le dire comme ça, là, c'est un fil de la métaphore journalistique, les Russes sont partagés entre une relative exaspération au quotidien. Aujourd'hui, en Russie, par exemple, le Covid tape très fort. On n'en entend pas parler, mais à Moscou, ça tape très fort en ce moment.
Et ils sont très peu vaccinés. Ils achètent carrément les packs vaccinaux. Notre correspondant nous l'avait d'ailleurs dit sans s'en cacher.
On ne veut pas prendre du Spoutnik.
Le Spoutnik, pour le coup, n'a pas de recul, disent certains. Alors sur le Spoutnik, on n'a vraiment pas de recul du tout.
Non. Pour autant, personne n'est capable de dire si c'est un bon vaccin ou non, par ailleurs. Mais en fait, voilà. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucune confiance de ce point de vue-là. Ça tape dur et c'est compliqué aussi au niveau économique en Russie, c'est-à-dire que la vie quotidienne est une vie qui n'est pas simple. Donc Poutine a tout intérêt à jouer, vieux refrain classique, on mène une politique extérieure avec des objectifs en politique intérieure, même s'il est en train de continuer de museler son opposition, puisque pas plus tard qu'hier, Navalny a été mis sur la liste des dangereux terroristes.
On a vu la fermeture du centre.
Mémorial, il y a de ça quelques semaines. Bref, il fait le ménage et en même temps, quand même, la population russe, notamment urbaine, est quand même pas très... Et faire monter les enchères du côté de l'international, c'est d'une certaine manière se gagner une partie de la paix sociale. Question qui se pose, c'est à quoi joue Poutine ? Quel est son objectif ? Et la réponse est certainement pas d'objectif particulier, si ce n'est ce que je viens de dire.
Il faut dire quand même que le PIB de la Russie est extrêmement bas. C'est un très grand pays, mais qui a un PIB dérisoire. Et alors, c'est un peu à double tranchant, parce qu'ils vivent aussi beaucoup de ce qu'on leur achète. Oui. Nous avons besoin de leur gaz, ils ont besoin qu'on leur achète aussi. Poutine devrait faire attention là aussi, parce que ça peut se retourner contre lui. Il a permis à l'OTAN qu'on disait, moribond, etc. Sûr, voilà. Comme l'avait dit Macron, ben aujourd'hui, l'OTAN est renaît de ses cendres, tel le phénix, et devient, oui, devient un partenaire important.
Et tout le monde a intérêt à ce renouveau de guerre froide, y compris, je veux dire. Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Moscou résonne comme résonne Washington, c'est-à-dire on est choqué. Alors moi je suis pas du tout pro-Poutine ni pro-russe, mais on est choqué du comportement de Moscou par rapport aux proches, à l'étranger proche comme on dit, c'est-à-dire aux ex-pays satellites. Et il fait le ménage à ses frontières de manière à se garder un peu de tranquillité. Les États-Unis font exactement la même chose avec l'Amérique du Sud, voilà. Et ça nous paraît relativement légitime, voilà. Donc on est pris dans ce jeu-là. Où est-ce que ça va ? Alors c'est vrai que tous les experts disent, y compris ukrainiennes d'ailleurs, disent de toute façon ils ne sont pas au point de pouvoir attaquer. Voilà, il n'y a pas suffisamment de logistique mise en place pour aujourd'hui s'engager dans une guerre qui sera une guerre très particulière. D'ailleurs, on peut imaginer qu'on ne se fait pas la guerre entre puissances nucléaires à partir de l'arsenal. Donc c'est toujours des choses un petit peu compliquées qui risquent de se passer.
Et aucun des Européens ne voudra mourir pour Kiev. Et par contre, M. Biden a peut-être aussi intérêt à déplacer un peu ces problèmes dont on va parler dans secondes. Alors, sur le plan extérieur aussi. Donc tout ça est dangereux.
Moi, il y a une question qui m'intéresse. Certainement, il n'y a aucun Européen ne voudra mourir pour Kiev. J'aimerais savoir quel Russe est prêt à mourir pour Kiev.
On va leur laisser le choix. Nous l'avons, mais eux l'ont-ils?
Oui, oui et non. Mais enfin, on ne fait pas de bonne guerre avec des militaires qui sont relativement peu convaincus. Voilà. Il n'y a qu'à voir comme aujourd'hui la Russie utilise plutôt...
Ils ont des milices.
Ils utilisent plutôt Wagner que ces conscrits. Voilà.
Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ?
Alors, j'ai juste une petite information à apporter. J'ai vu passer ce matin, ça reste à confirmer, mais il y avait 8000 soldats américains qui étaient prêts pour aller aider l'Ukraine. Et j'ai vu passer que les États-Unis s'étaient un peu désengagés, en théorie. Et du coup, ça remettrait un peu le conflit en question, puisque surtout Macron, il s'était positionné de manière presque agressive, on va dire. Quand il a parlé d'éviter la désescalade.
Il est toujours agressif, c'est sa technique, maintenant.
Je veux dire, on est dans une position un peu perverse d'ailleurs, dans laquelle il est le président européen, on va le dire comme ça. En même temps qu'il est candidat pour être président français, c'est pas un contexte qui est des plus rassurants sur la lucidité de la personne qui est aux manettes.
Je crois qu'à l'époque, Madame Merkel avait voulu différer sa présidence allemande puisqu'elle était candidate. Mais bon, Madame Merkel est en Allemagne.
Et M. Macron se considère certainement au-dessus de ce genre de contingence.
On peut le penser. Allez, je vous propose de passer, mais assez rapidement, parce que je crois qu'on en fera un jour une émission sur les USA et la démocratie qui se délite de plus en plus dans ce pays qu'il a inventé quand même.
Notre ville revient, ils sont devenus fous.
Voilà, c'est un peu ça. Alors moi, je voulais juste vous lire une lettre. On demandera peut-être, j'avais fait l'émission avec eux, les représentants du Parti démocrate, de venir avec nous et on sera tous autour de la table pour évoquer cette question. Parce qu'il y va quand même aussi de notre avenir. Autant on ne peut pas parler avec M. Poutine ou avec le Chinois et ses amis Ouïghours, autant avec les États-Unis, on a quand même une tradition et une alliance. Et donc ce qui se passe chez eux est pour moi assez important. Alors je vais vous lire une lettre qui a été écrite à Philippe Meyer, le journaliste Philippe Meyer, et je vous recommande chaleureusement son podcast qui s'appelle « Le Nouvel Esprit Public ». Qui nous inspire beaucoup sur cette station et moi personnellement. Il a un monsieur Emmanuel Dupuis d'Anjac qui vit aux États-Unis, lui a écrit la chose suivante. Je me permets un commentaire sur votre brève à propos du film Don't Look Up. Hein, je vis aux États-Unis, dit-il, depuis maintenant près de 25 ans, et je constate avec horreur depuis les années Bush, probablement depuis Reagan, parce que toute cette affaire-là, là c'est moi qui le dis, est très très ancienne, et la dérive des républicains ne date pas ni de Trump, ni des 10 dernières années. Ça ses racines très très loin. Donc je reprends, je constate avec horreur depuis les années Bush, probablement depuis Reagan, la descente aux enfers de la démocratie américaine, la suppression du droit de vote, une cour suprême fanatisée, un Pentagone omnipotent et inquisiteur, la criminalisation de journalistes tels Julian Assange, la propagande des médias américains, la captation du pouvoir par une minorité blanche, le Sénat américain, par le découpage électoral représente en gros 30% des électeurs, la remise en cause du droit à l'avortement, la toute-puissance des polices locales américaines, en moyenne, précise-t-il, les polices américaines tuent 1000 personnes par an, bah rien, l'incarcération de masse, Bill Clinton à lui tout seul est responsable de la mise en prison d'en gros d'un million de Noirs, l'omnipuissance des lobbies américains, le fameux sénateur Manchin, là, qui bloque aujourd'hui, qui est un milliardaire.
Un démocrate modéré.
Oui, enfin, qui est en réalité un milliardaire, mais qui pourrait très bien se retrouver demain dans le Parti républicain. On lui a d'ailleurs proposé
il
de...
Il est aux affaires.
Voilà. Et donc, Manchin et sa femme ont touché en 2020 plus d'un million de dollars d'un producteur de charbon de West Virginia, parce qu'en Virginie, il y a des producteurs de charbon, et d'ailleurs, Manchin, en fait, sa richesse dans le charbon. L'éradication des syndicats, regardez ce qui se passe chez Amazon, le système de sécurité sociale inexistante, le salaire minimum qui n'a pas changé depuis les années Reagan, le capitalisme américain a tué la démocratie en Amérique, les partis démocrates et républicains sont complètement corrompus par le capitalisme, je suis affolé de constater que les Européens ne voient pas la gravité de ce qui est en train de se passer de ce côté de l'Atlantique, il est urgent de fermer le New York Times et de suivre le peu de journalistes intègres qui restent dans ce pays, il cite Matt Taibbi et Glyn Greenwald, qui sont par exemple des voix importantes. Le livre de Jen Meyer, Dark Money, est également un ouvrage important. Pour en revenir au film, donc je vous passe la chose, mais si, je finis quand même. Pour en revenir au film, oui, c'est une caricature, mais à peine poussée. Une partie des dialogues sont d'ailleurs des reprises de Trump, notamment lorsque le fils parle de sa mère comme une nana qu'il aurait bien mise dans son lit si ce n'était pas sa mère. Trump dit exactement la même chose à sa fille. Les élections de mi-mandat vont être une catastrophe et le futur est très sombre. Fermez les guillemets. Donc c'est un auditeur de Philippe Meyer et du Nouvel Esprit Public que je vous recommande encore chaleureusement d'écouter. Tous les dimanches, voilà. C'est une lettre qui a été écrite à Philippe Meyer. Il vit aux États-Unis, il vit cette problématique. Et je pense que les Européens qui ont été un peu angéliques en pensant qu'en voyant arriver le nouveau président, les choses allaient s'arranger. Ce n'est pas tout à fait ce qui risque de se passer. Et je crois qu'on peut être extrêmement inquiet de voir le recul colossal de cette démocratie, sachant que aujourd'hui, M. Biden a fini, parce que là, il n'arrive plus à faire passer ses réformes. Et alors, c'est quand même ses propres amis démocrates, deux sénateurs, eux un sénateur, une sénatrice aujourd'hui, qui le bloquent. Ils voulaient réviser, d'ailleurs, refonder un peu le système électoral américain. Aujourd'hui, il en est complètement empêché. Et on sait comment ça se passe. Ce qui se passe aux États-Unis est très grave. Et on sait aussi que ce qui se passe souvent aux États-Unis, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est ce qui se passe chez nous.
Regardez Fox News
News d'un certain monsieur Bolloré, pour voilà. Ne pas le nommer, on peut demander véritablement où on en est. Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ?
À propos de Bolloré ou des
Oh
États-Unis.
Non, de Bolloré, on va à part, on pourra en dire du mal pendant
on
des heures.
On dira du mal.
Une autre fois, c'est pas. Les pauvres sont nombreux. Il faut.
Oui, mais c'est pas la baraque.
Voilà, non, mais sur la situation américaine, c'est quelque chose dont on vous parle dans votre université ?
Eh bien, moi, j'ai beaucoup été informé à propos des lanceurs d'alerte, par exemple. Julian Assange, par exemple. Ouais. Eh bien, moi, je trouve ça choquant par rapport à ce qu'eux, ils représentent et au message que ça envoie, en fait, sur la réalité de la démocratie qui s'applique sur des individus qui essaient de donner un peu plus de liberté, surtout sur l'information, etc. Je trouve que Julian Assange, c'est un combat très, 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 très important et que je les vois très, très coupables les États-Unis là-dessus.
Oui, en cela, ils n'ont pas été les seuls d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas,
pas
dire qu'à
s'est mis derrière, qui s'alignait.
Voilà, on ne peut pas dire qu'en Europe, on a été beaucoup des chauds supporters de Julian Assange, qui avait, je crois, demandé l'asile même à M. Poutine, c'est dire où il en était.
Parce parce que de toute façon, nous n'offrions pas, effectivement, les lanceurs d'alerte ne sont pas forcément bien accueillis non plus en Europe. Mm-hmm. Mais l'Europe, de ce point de vue-là, est un peu comme le reste, est un nain politique, de ce point de vue.
Donc je pense qu'on reviendra sur cette situation qui est quand même extrêmement préoccupante avec nos amis démocrates.
Juste un mot, c'est d'autant plus grave, ou du moins ça laisse d'autant plus perplexe quand on lit ou quand on écoute les déclarations que fait le président Biden, dont on a l'impression qu'il s'étonne d'être la victime de la vindicte républicaine déchaînée en disant ces gens-là ne jouent pas le jeu, ces gens-là ne sont pas très corrects.
Oui.
Ça me rappelle la lecture pénible, je dois avouer, que j'ai faite du dernier bouquin du président Obama, de l'ex-président Obama, dans laquelle on se disait, mais c'est une espèce de pragmatisme assez facile et d'histoire candide racontée aux petits-enfants de la politique américaine.
Oui, mais c'est, les Américains, on a parfois l'impression qu'ils sont de grands enfants. Bon, nous, on ne va pas leur donner des leçons avec ce qui se passe chez nous. Cela étant, le livre d'Obama est très intéressant parce qu'on s'aperçoit quand même que le président des États-Unis, qu'on présente toujours comme l'homme le plus puissant du monde, en réalité, ce n'est pas du tout la réalité, mais pas du tout.
Du moins, c'est ce qu'il dit. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a effectivement une énorme différence entre ce qui est annoncé, la façade, et effectivement ce qui se passe à la lecture de ce bouquin. Et j'ai retrouvé cette même tonalité-là, me disant, mais il pensait quoi ? Je veux dire, en face, il y a des tueurs.
Oui.
Trump est un mec qui est un tueur.
Il pensait quand même, il nous avait vendu le fait qu'il était au Sénat depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années, donc il connaissait tout ça sur le bout du doigt et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On n'a rien vu du tout.
Non, on a vu quelques tentatives intéressantes, effectivement, du côté de la réforme des... Mais qui, en plus, c'est très compliqué pour lui, les réformes électorales qui sont territorialisées, puisque c'est un État fédéral.
Oui. Et quand on voit que certains États s'ingénient à faire que l'on n'arrive pas à voter...
Que les Noirs, pour le dire clairement, que les Noirs votent peu.
Certains États dégarnissent considérablement les bureaux de vote, ce qui fait qu'il faut des heures pour voter, ce qui fait qu'il y a des files, et ce qui fait que certains États ont voté, je crois, je ne sais pas si c'est pas la peine de mort ou autre chose, pour ceux qui ravitailleraient les gens qui font la queue. C'est-à-dire vous faites la queue pendant des heures et que vous apportiez un sandwich, un jambon beurre, mais en fait là-bas ça s'appelle pas un jambon beurre, un burger, voilà, et une bière à quelqu'un qui attend, vous vous retrouvez en prison. Enfin, on voit des choses hallucinantes aujourd'hui.
Oui, c'est là où je dis que ce sont des tueurs et je veux dire tout est bon à partir de là. Il y a une espèce de mélange de candide, de discours candide et de pratiques qui sont des pratiques de tueurs. Voilà, c'est pas rassurant. Mais...
Bon, nous y reviendrons parce que c'est quand même une affaire de la plus haute importance à mes yeux. Et donc voilà, surtout que l'heure tourne, comme le dirait Philippe Meyer dans son podcast Le Nouvel Esprit Public que je recite, l'heure a largement sonné de nos brèves. Alors moi j'avais une brève qui était longue, donc je vais la raccourcir considérablement. Simplement c'est ceci, le QI moyen de la population mondiale, d'ailleurs ça rejoint un peu peut-être et ça illustre ou ça explique tout ce qu'on vient de dire, le QI moyen de la population mondiale qui a toujours augmenté depuis l'après-guerre à la fin des années 90, est en baisse au cours des 20 dernières années. Alors, c'est le retournement de l'effet Flynn. Vous savez, l'effet Flynn, c'était l'accroissement des scores au test de quotient intellectuel. Mmh. Et aujourd'hui, on est en pleine inversion. Il diminue ce niveau d'intelligence dans les pays les plus développés. Alors, il y a beaucoup de causes de ce phénomène. L'une d'elles pourrait être et certainement l'appauvrissement du langage. Plusieurs études montrent en effet que la diminution de la connaissance lexicale et l'appauvrissement de la langue, c'est pas seulement une réduction du vocabulaire utilisé, mais aussi des subtilités linguistiques qui permettent d'élaborer, de formuler une pensée complexe qui sont perdues. Quand on a corrigé quelques dizaines de copies, quand on s'est aperçu que effectivement l'orthographe était défaillante, et puis après, on en est venu à constater que c'était l'expression même de la pensée et de l'analyse qui devenait complètement défaillante. Mais j'imagine que vous avez vu ça aussi, Jean-François Mignard.
Je ne suis pas convaincu par ça. Vous savez ce que disait Binet à propos du quotient intellectuel et des tests ? Quand on lui disait c'est quoi l'intelligence, Binet répondait c'est ce que mesure mon test. On n'a jamais été capable de définir ce que mesuraient les tests, c'est pour ça que je suis assez perplexe. Voilà.
Oui, mais enfin, on peut quand même constater qu'il y a un appauvrissement de la langue, qu'il y a
une
expression. Quand vous lisez un livre, je lisais un livre qui a été écrit par exemple au début du 20e par un médecin militaire qui était dans la marine, quand vous voyez la richesse du vocabulaire de ce garçon et quand on voit la pauvreté du vocabulaire d'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on a laissé un peu de carrosserie au passage.
Je vous propose qu'on fasse une émission là-dessus un jour, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'aller au-delà.
Voilà, c'est quand même bien. On a tellement de sujets. Voilà, le rendez-vous est pris, en tout cas, voilà une brève qui a permis de lancer ce rendez-vous. Une autre brève, Jean-François ?
Une brève, mais juste un petit clin d'œil à l'actualité. Mais c'est curieux comme on découvre quelque chose qui quand même était connu la plupart de la population, la manière dont on traite nos vieux dans les EHPAD.
On en a et quand on y va, on le savait avant.
C'est bien ce que je suis en train de dire, mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on découvre cette chose-là et comment se fait-il d'ailleurs, quand on lit le livre, que ce livre porte sur des EHPAD qui sont des EHPAD pourris, en plus. Voilà. C'est quand même assez énorme. Il faudrait quand même que qu'une fois la mousse médiatique retombée autour de ce livre-là et de la chute en bourse de gestionnaire des EHPAD, on s'attaque réellement à cette question qui est une question quand même de comment ça concerne les communs, c'est-à-dire ce que nous partageons.
C'est une question dont on pourra aussi parler, mais nous avons une émission sur cette antenne faite par Andrés Atenza, qui est l'émission de l'ANRAS et qu'il gère, je crois, 80 établissements sur 12 départements, dont des maisons de retraite. Et donc nous l'entendons ici toutes les semaines et la réalité de ce qu'il vit dans ces établissements me paraît quand même bien différente. En tout cas, avec son équipe, ils font un sacré boulot et la qualité et le respect sont au rendez-vous des établissements de l'ANRAS. Ce n'est pas le cas de tous, malheureusement. Autre bref, non.
Non. Ça va mieux, mais...
Alors, oui, moi, j'ai un ça va mieux. Donnez le vôtre, je donnerai le mien après. Oui, le mien est un ça va mieux particulier. Je vous laisse livrer le vôtre.
Moi, c'est un ça va mieux sur le fait qu'on vienne de voter une loi interdisant les thérapies de conversion. Ben, écoutez,
qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion ?
Une thérapie de conversion, c'est contraindre quelqu'un qui n'a pas cette orientation-là à l'hétérosexualité, autrement dit, considérer l'homosexualité comme une maladie, et donc la traiter par ce qu'on appelle une thérapie de conversion, souvent violente, psychologiquement, voire physiquement. C'est quelque chose qui a été pratiqué de manière, je ne veux pas dire courante, mais qui se pratique, en France notamment. Et l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, vient de voter une loi interdisant ces thérapies de conversion.
Aberrant.
C'était quelque chose d'assez aberrant. C'était cette semaine que ça a été interdit. Donc, c'est pour ça pour dire que c'était aberrant. C'est une aberration qui... l'homosexualité n'est pas une maladie. Totalement. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à devenir obligatoirement hétérosexuel. Il a fallu attendre 2022 pour que ce puisse être le cas.
Nous vivons une société moderne, comme dirait Philippe Meyer. Tout ça progresse. Alors moi, je note ça va mieux. C'est au sujet de la paupérisation progressive et inéluctable des Français, dont on nous parle beaucoup. Alors il y a un économiste qui s'appelle Olivo, je ne connais pas, qui a regardé les moyennes depuis 70, en commençant par l'essence. Il nous dit en 70, le salaire minimum horaire était de 3,50 francs, on parlait de francs à l'époque. Le litre d'essence était à 1,10 francs, donc il fallait 19 minutes pour s'en procurer un litre. Aujourd'hui, le SMIC est à 10,48 euros pour un litre à 1,65, soit 9,5 minutes, deux fois moins. Et donc, il a passé en revue les principaux indicateurs, son gros travail, et il nous dit, finalement, le pouvoir d'achat n'a pas reculé, même sous Macron, il aurait augmenté de 1,6 en moyenne. Alors c'est un peu comme la météo, il y a la température réelle et puis il y a la température ressentie. Et certains ressentent plus le froid que d'autres.
Comme les sécurités.
Voilà, ce sont toujours les mêmes. Conseil culturel, moi je veux vous conseiller un livre qui porte sur les criminels climatiques, une enquête édifiante sur trois entreprises les plus climaticides du monde. Ça a été mené par Michael Correia, c'est aux éditions La Découverte, 192 pages, ça vient de sortir. Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. Alors c'est pas Amazon, c'est pas Total, c'est pas BP, il y en a trois de ces entreprises qui sont dans le trio de tête, bien sûr. Et ce sont le pétrolier Saudi Aramco, vous savez qui c'est. C'est le géant chinois du charbon China Energy et la compagnie gazière russe Gazprom. Et Michael Correia, qui est un journaliste, dévoile dans cet ouvrage leur stratégie très très bien huilée hein, pour produire toujours plus d'énergie fossile et pour mettre toujours plus l'humanité tout entière en danger.
Gazprom, c'est l'endroit où travaille Schröder, non
Oui, monsieur Schröder. Et puis on a quelques Français aussi. Oui, monsieur Fillon est dans le parage. Notre ancien Premier ministre qui disait que la pente était rude et que je ne sais trop quoi est assez proche aussi. Et il nous dit à L3, si c'était un pays, ces entreprises incarneraient la troisième nation la plus émettrice de gaz à effet de serre du monde, derrière la Chine et les États-Unis. Voilà, donc sinistre trinité des énergies fossiles, nous dit Michael Correia. Donc je vous recommande le livre, je répète son titre, Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. Jean-François.
Deux choses, un livre pour se prendre un peu la tête, il y a 20 ans qu'il est mort, il s'appelait Pierre Bourdieu, ça s'appelle Intervention. Toute une série d'articles écrits entre 1961 et 2001 aux excellentes éditions Agone. Et puis pour se détendre, après une lecture un peu aride, Debout les femmes, de Gilles Perret et de l'inoxydable François Ruffin, je suis allé le voir. C'est une enquête, c'est une commission parlementaire faite directement sur place. C'est extrêmement révoltant et jouissif. Ces femmes qui sont au front, hein, vous savez, les premières de corvée qui parlent et qui racontent leur vie, c'est très pédagogique. Allez-y, c'est sorti en septembre, mais ça repasse régulièrement, n'hésitez pas.
Merci, merci à tous, merci à Jean-François, à Pierre, à Mathieu, merci à Yanis qui a été aux manettes sur cette émission. Impérial, il le fut effectivement. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne. Donc vous pourrez retrouver le podcast sur le site d'Esprit Occitanie, bien sûr avec tous les autres podcasts. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.